RCF.
Et nous partons aujourd'hui dans un jardin merveilleux, c'est celui du Cantique des Cantiques. C'est un des livres de l'Ancien Testament, c'est presque un second Éden, un lieu d'amour où les cinq sens sont comblés. Et nous allons le faire avec vous, Sylvain Gasser, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes frère assomptionniste, éditeur de podcasts à la revue Prions en Église, et notamment pour le podcast La Bible à l'oreille, pour lequel vous avez travaillé sur le Cantique des Cantiques. Dans ce livre, deux amoureux se recherchent à travers les jardins pour mieux se retrouver. Il est question de disparition, d'apparition, de séparation. Est-ce que c'est justement pour nous dire la difficulté à saisir ce qu'est l'amour, ce vertige en fait qui finalement nous attrape?
Oui, vertige est un mot que j'aime bien utiliser à propos de l'amour ici décrit. Parce qu'à partir du moment où on quitte, comme on dit aujourd'hui, sa zone de confort pour aller vers l'autre, l'autre que j'aime et qui m'aime, qui suscite en moi une réaction tout à fait nouvelle et qui m'étonne moi le premier, à ce moment-là, je ne suis plus tranquille, je vais bouger, je vais devoir partir, parfois quitter la maison de nuit, je vais connaître l'aventure finalement de l'amour. Et ici, c'est raconté à travers cette recherche sur les collines, cette recherche même la nuit, et d'ailleurs la Sulamite, c'est-à-dire la femme, c'est le nom de la femme noire et magnifique, comme il est dit au début du cantique, elle sera violentée, elle va connaître une agression durant la nuit. Donc sa recherche est aussi une recherche qui se vit dans l'épreuve, notamment avec les soldats. Donc cette femme, et elle risque tout, mais de toute façon, rien ne peut l'arrêter. À partir du moment où vous aimez, et c'est ce que le cantique révèle, vous êtes comme aimanté vers l'autre. Mais cette aimantation, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais en tout cas, cette capacité d'être aimanté ne fait pas que je vais trouver l'autre. Je vais être attiré et j'avancerai au gré de cette attirance.
Je ne vais pas trouver l'autre et je ne vais pas non plus trouver le repos et je vais même plutôt rencontrer l'intranquillité.
Exactement, c'est très juste.
Alors, il y a ce verset qui est vraiment magnifique dans ce chapitre 3. C'est « Ne réveillez pas amour avant envie ». Ça, c'est toute la question du désir.
Exactement, et ne rien brusquer. Laissez les choses venir, elles viennent, vous les prenez, elles ne viennent pas, vous ne les prenez pas. Mais ne forcez pas, j'avais envie de dire un peu avec un ton un peu moqueur, ne forcez pas la créature justement. C'est-à-dire, l'amour vient à son heure et nous n'avons pas nous à le programmer. Dans ce sens, il ne serait pas du tout gratuit. Et ne réveillez pas amour avant que l'envie en vous se révèle à vous-même. Je ne peux pas aimer tout de suite comme ça. Il faut un contexte. Il y a un moment donné, et puis il y a un désir, il y a une volonté. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent quand nous voulons aimer. Et surtout quand nous découvrons que nous sommes capables d'être aimés. Je pense que c'est surtout ça, à mon avis, qui nous bouscule le plus. Donc ne réveillez pas amour avant envie. L'amour est plus fort que tout. Il est au-delà même de ce que nous pouvons en dire. Il est plus puissant que chacun de nos sentiments et de nos affects. Finalement, l'amour et Dieu, c'est pareil. Dieu est au-delà des mots qu'on peut dire de lui. Il est au-delà de ce que l'on peut saisir de lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vraiment saisir de Dieu? Et bien, c'est pour ça que le terme amour et Dieu fonctionnent très bien ensemble. Dieu vient à son heure et c'est à cette heure-là que nous pouvons entrer dans ce chemin et le suivre. Donc attendons, et en fait c'est cela qui est très beau aussi dans le Cantique des Cantiques, c'est qu'il met en avant la vertu de l'attente, ouais. Et non pas le besoin d'être de l'immédiateté, d'être avec. J'attends, je désire, dans la liturgie chrétienne nous avons le temps de l'attente, de l'avant, pour justement attendre la naissance d'un enfant, et un enfant vient en 9 mois, on a le temps de l'attendre, mais c'est pareil pour l'amour, laissons-le venir à son heure et à son rythme.
Et puis je ne possède pas non plus, la question de la possession, elle est présente dans ce texte du Cantique des Cantiques.
Justement, parce qu'il y a même une jalousie à rester qui l'on est, à rester sur ce, pas ce quant à soi, mais à bien montrer je suis une femme, je suis un homme, et cette liberté-là, cette position est très importante. Sinon, on est dans la domination et dans l'emprise, et on sait aujourd'hui les ravages que cela peut faire, hélas. Donc au contraire, laissons l'amour se prodiguer entre nous. En fait, ce qui est important, c'est pas tant ce que moi je peux donner à l'autre, ou ce que l'autre peut me donner, mais c'est ce qui se passe entre nous. Et c'est cet intervalle qui est le plus précieux. Parfois, on peut être ne pas se rencontrer, ne pas se voir longtemps, et pourtant s'aimer d'un amour tout à fait passionnel et fou. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Finalement, On fait de notre amour et de nos corps un objet que je veux posséder, un objet que je veux maîtriser. Mais non, l'amour dépasse largement tout cela.
Alors, ce que vous disiez sur cette relation, elle est particulièrement perceptible dans ce poème à travers l'échange des voix. D'ailleurs, c'est marqué, moi j'ai ici sous les yeux la Bible de Jérusalem, c'est indiqué la bien-aimée, le bien-aimé, le cœur. Il y a une alternance, il y a même un tiers, le cœur. C'est ce qui fait exister la relation.
Oui, c'est-à-dire que en mettant en scène la quête amoureuse, en la mettant en scène, on voit que ce n'est pas que toi et moi, qu'il y a bien plus que nous deux, qu'il y a tout un contexte qui fait que mon amour il a pour toi et l'amour que tu prouves pour moi, il nous dépasse largement. Il dépasse simplement nos propres vues. Et ça, c'est important de le savoir. Mmh. Parce que sinon, on est dans une sorte de jeu de miroir. Et non pas de jeu de transparence. C'est pas tout à fait pareil. Et le jeu de miroir, je me regarde à travers l'autre. Mais je peux aussi voir en l'autre un vitrail qui me révèle sa propre lumière. Et c'est ça le plus important. Si je voulais trouver une image, par exemple. Et ça, c'est effectivement précieux. Et on voit que il y a notre amour, il est aussi dans un contexte. Le contexte des gens qui nous entourent, la société, etc., etc. Prenez par exemple comment je me mets à la place des amoureux qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza. Comment est-ce qu'ils s'aiment? Comment ils se trouvent un moment d'intimité entre eux? Comment ils vont pouvoir élaborer des projets de vie dans cet enfer? Forcément, leur chemin amoureux aura un chemin très singulier. Mais même là, on peut aimer aussi.
Mmh. Eh bien, on va plonger dans la poésie du Cantique des Cantiques. C'est un extrait du chapitre 3. Il est lu par le comédien Noah Morgenstern. Noah Morgenstern, il est pensionnaire de la Comédie Française. Et vous allez voir, il nous révèle le livre du Cantique des Cantiques avec beaucoup de poésie. On l'écoute.
Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que j'aime. Moi, je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever. Je vais tourner dans la ville, dans les rues, sur les places. Je vais chercher celui que j'aime, moi. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui m'ont trouvé, ceux qui tournent dans la ville. Avez-vous vu celui que j'aime, moi? Je les croise et je le trouve. Celui que j'aime, moi, je le tiens, je ne le lâcherai plus. Jusqu'à le faire entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a faite. Par gazelle et biche des champs, je vous prie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas, amour, avant, envie. Celle qui monte du désert en colonne de fumée, brûlante de myrrhe et d'encens avec tous les parfums des marchands.
Voilà Noah Morgenstern qui lit ce texte du Cantique des Cantiques. C'est une interprétation poétique, c'est celle d'un comédien. Elle est recevable, elle n'est pas hérétique, Sylvain Gasser.
Non, alors il n'y a pas d'interprétation hérétique quand on s'empare d'un texte, quand on l'a travaillé, qu'on l'a étudié,
aussi
et qu'on le remet en scène.
Ah ben
évidemment, évidemment. Alors sinon, il y aurait donc la police des mœurs pour la lecture des textes. Ce serait terrible, évidemment. Non, pas du tout. C'est laissons les artistes travailler les textes, c'est leur métier, et goûtons à la surprise que nous éprouvons quand nous les écoutons. Ça, c'est quelque chose de très important. J'ai eu un grand coup de cœur quand j'ai entendu Noam interpréter le Cantique des Cantiques, d'autres comédiens faire autrement, mais la question n'est pas de comparer. À un moment donné, quand je travaille le texte, ce texte est en train de me traverser, il me nourrit, et puis je le redonne, c'est le propre du comédien, de redonner le texte à une assemblée. Je pense que ça nous permet aussi, parfois, d'enlever ce côté très hiératique, très sacré des textes, qui fait qu'on les lit très sérieusement, avec une phase de carême, bon. Et en fait, on oublie complètement que ce sont des textes incarnés, que ce sont des textes qui utilisent des mots. Si on utilise tous les mots de la poésie, c'est justement pour nous faire goûter à quelque chose, pour nous faire savourer la parole. Et pas simplement pour parler à un esprit cérébral, finalement, qui devrait tout comprendre et à coup d'argumentation et de démonstration. Mais laissons-nous simplement habité, traversé par la sueur, par la chaleur des mots ici exprimés.
L'émotion est permise, c'est justement l'occasion d'évoquer les lieux dans lesquels sont lus les textes aussi et
exactement.
Par qui ils sont lus. On n'est pas ici dans une église, on n'est pas ici dans le cadre d'une liturgie, donc on peut s'autoriser à écouter cette version. Merci beaucoup Sylvain Gasser, je voudrais qu'on s'arrête sur ce verset qui traverse ce troisième poème, chapitre 3. « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» C'est parfois une question des jeunes amoureux de faire connaître, bien évidemment, celui qu'ils aiment, celui qu'elle aime, et de partager cette joie avec d'autres. L'amour, c'est la joie, c'est la liberté, c'est le partage aussi.
Oui. Alors, il y a deux sens, effectivement. « Avez-vous vu celui que j'aime ?» C'est « Est-ce que je vous l'ai déjà présenté ?» Mais c'est surtout cette femme qui le cherche. Est-ce que vous ne l'avez pas aperçu quelque part ? Parce que je le cherche et je pourrais être inquiète si on ne me disait pas où il était. Mais en fait, c'est intéressant de prendre ces deux sens-là, parce qu'effectivement, l'amour, on ne peut pas le garder pour soi. C'est un tel débordement de, je dirais pas de passion, mais un tel débordement de plénitude d'être que ça se communique automatiquement, sans même chercher à le faire connaître ou à le partager. Ça fonctionne de fait comme cela. Quand vous voyez quelqu'un qui est amoureux, vous dites « Ah bah toi tu es amoureux ou tu es amoureuse ?» Ça se voit dans le regard, il n'a rien dit, elle n'a rien dit, rien n'est exprimé, et pourtant c'est ce qu'on dit. On voit bien que ça transparaît sur le visage, et le visage est sans doute le lieu où l'amour se niche ou se crèche le plus agréablement, parce que c'est à travers un regard, à travers une posture de la tête qu'on voit très bien ce qui est en train de nous traverser de l'intérieur. C'est le reflet, le regard est le reflet de notre âme. Et bon, là j'arrive dans une description peut-être plus spirituelle, mais on a ici des très belles choses qui sont dites de l'amour. Mais si je reviens au Cantique des Cantiques, vous avez tous les sens qui sont mis en excitation, non seulement le voir et l'entendre, qui sont les deux sens les plus mis en avant dans l'Ancien Testament pour dire comment nous devons aborder Dieu. Voir Dieu, entendre sa parole et le voir. Et là, dans le Cantique des Cantiques, vous avez tout. Vous avez la palpation, je veux le toucher, vous avez les odeurs et vous avez les fruits dans votre bouche, ça salive déjà. Et donc, tous les sens sont ici excités, mis en branle, justement pour arriver à montrer que l'amour, quand il est en nous, il nous déborde complètement. Quelle que soit d'ailleurs aussi la situation, parce qu'il y a quelque chose quand même de tragique dans ce texte. Elle le cherche, elle ne le trouve pas, elle va connaître des moments un peu difficiles. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, c'est pas une sorte d'amour béat. L'amour, c'est aussi du travail. C'est ce que je dis d'ailleurs à beaucoup de couples. Je leur dis, si votre amour, ce n'est pas du boulot, alors c'est pas très glamour, je suis tout à fait d'accord, mais si vous ne bossez pas dans votre amour, il ne tiendra pas. Ça se travaille, et ce travail, je le mets en écho avec cette recherche, cette quête absolue et incessante de l'autre.
Il y a aussi la question de l'absence dans ces versets. L'absence, celui qu'on ne trouve plus, celui qu'on espère, la quête.
Les deux bien-aimés ici sont amoureux de leur absence. Ils se cherchent, ils ne se trouvent pas, on ne voit pas deux personnes à une table en train de boire un verre d'eau ou un jus de fruits. Non, ils se cherchent, ils sont amoureux de leur absence. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que c'est pas une défaite, c'est simplement qu'on n'en aura jamais fini avec l'amour tant qu'il est sous le sceau de la recherche. Et c'est ça que j'aime beaucoup. L'absence, c'est un peu, prenons le texte des disciples d'Emmaüs, où à partir du moment où ils le reconnaissent, il disparaît de leur vue. Il est comme absent. Et donc on n'a plus besoin de voir, de sentir, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon amour continuera à me traverser, à me travailler. C'est ce que certaines personnes éprouvent dans le deuil, par exemple, quand on a vécu amoureux toute une vie et que l'un des deux part, qu'est-ce qui reste ? Il reste cette absence qu'on aura aussi su alimenter tout au long de notre vie.
On va écouter un dernier extrait dans cette découverte du livre du Cantique des Cantiques. C'est un extrait du chapitre 8.
Pourquoi ne serais-tu pas mon frère, nourri au sein de ma mère ? Je te trouverai dehors, je vais t'embrasser, je ne serai plus méprisé. Je t'emmènerai, je te ferai entrer dans la maison de ma mère. Tu m'exerceras, je te ferai boire du vin d'épices, du jus de ma grenade. Sa main gauche tient ma tête. Et sa droite m'enlace.
Je vous prie, filles de Jérusalem, allez-vous réveiller. Allez-vous réveiller, amour, avant envie.
Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son amour ?
Sous le pommier, je te réveille. C'est là que ta mère t'a fait. C'est là que ta mère t'a fait et t'a eu comme enfant. Impose-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort, passion dure comme l'enfer, flamme, flamme de feu, flamme de yah.
L'amour est plus fort que la mort. Ça vient donc du livre du Cantique des Cantiques.
L'amour fort comme la mort, c'est-à-dire que nous avons les deux puissances qui nous traversent, qui nous rongent. Et qu'il nous faut souffrir aussi, hein, c'est il faudra choisir. Et l'amour fort comme la mort, ces deux royaumes s'opposent à nous de choisir notre camp, de savoir vers celui qu'on choisit, voir lequel va peser le plus dans notre vie, parce que ce ne sera pas toujours aussi simple. Nous savons tous que nous sommes mortels, sans savoir ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est qu'on découvre aussi qu'on ne dit pas que l'amour est plus fort que la mort, il est fort comme la mort. Ce sont des puissances qui nous assaillent et qui marquent aussi notre finitude. La finitude de ma vie, je vis et je meurs. Et il y a dans cette finitude humaine ce sentiment de s'en extraire, traduit par l'enthousiasme, par la puissance de l'amour.
Oui, ce que vous dites, ça fait écho au Deutéronome chapitre 30. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. Donc on est interpellé à choisir la vie.
Et pareil pour l'amour. Nous avons plutôt intérêt à ne pas laisser passer l'amour quand il se pointe, puisqu'on le laisse venir. Mais quand il vient, ne saisissant l'occasion. Par amour, c'est-à-dire simplement cette capacité que j'ai à être comme transfiguré, métamorphosé par la présence puissante de l'autre. C'est ça qui est très important. Mmh. Moi, je suis prêtre, je suis religieux. Donc évidemment, je ne partage pas l'amour que j'éprouve pour les uns pour les autres avec une femme, mais j'ai beaucoup d'amour en moi. Enfin, j'espère en tout cas que cet amour ne disparaîtra pas. Je sais que je suis aimé et bien aimé et j'ai envie d'aimer également, c'est-à-dire d'aimer, de me donner pour l'autre. Alors ce sera pas sous les mêmes, de la même manière que dans un amour conjugal, mais c'est toujours un amour qui est au fond de moi et qui me traverse. Parce que sinon, le choix que j'ai fait sera absolument absurde et ridicule. C'est aussi un choix qui est marqué par le sceau de l'amour, parce qu'il y a le désir, parce qu'il y a la reconnaissance du manque, et parce que de toute façon, je souhaiterais que cette vie que je mène ne soit pas brisée par la mort. Et l'amour, en ce sens, je pense, me permettrait d'aller au-delà de ce qu'est la mort. Et c'est intéressant de voir que nous sommes une religion de l'incarnation, puisque Dieu s'est fait l'un de nous. Il a pris notre chair. Il a pris notre chair avec sa beauté, sa douceur, mais aussi avec ses souffrances. Et donc, j'ai moi à faire le ménage avec tout cela. Et le cantique ici ne voit sans doute qu'une part du corps, sans doute très beau, mais du corps qui est mis en branle parce que, à travers tous les sens ici exprimés, on peut effectivement voir que l'amour a à faire avec toutes les composantes de notre être.
Mais est-ce qu'avec le Christ, c'est ce verset, l'amour est fort comme la mort, est-ce que le Christ ne vient pas nous dire l'amour est plus fort que la mort ?
Eh bien, il dira en tout cas que la vie, que la mort n'est pas la fin de tout, ce n'est pas le dernier mot de notre existence. Et c'est là qu'il faut placer notre confiance et notre foi. Si je suis croyant, c'est que je veux croire à cela. Je n'en ai aucune preuve, je n'en ai aucune garantie, mais ce n'est pas ce que je réclame. Cette parole est forte et le Christ dira « la mort n'est pas la fin de tout ». C'est-à-dire que c'est les puissances de réveil qui sont mises en avant. De la même manière que dans le cantique, on a une nature une luxuriante, tout ne cesse d'être fécond, d'être plein de vie. Et bien de la même manière, le Christ nous montrera que la mort ne sera pas la fin du tout.
Sylvain Gasser, quel est l'enjeu spirituel de ce texte? On a compris, d'ailleurs vous êtes amené à préparer beaucoup de jeunes au mariage et on a essayé de saisir ce que pouvait être ce désir et cette quête d'amour que nous portons. Quel est l'enjeu spirituel de ce texte?
Notre Dieu veut se laisser toucher, approcher, sous le sceau de cet amour-là. C'est comme ça qu'on rencontre Dieu. C'est pas avec des discours, c'est pas avec des démonstrations rationnelles, c'est par notre capacité à aimer. C'est comme si Dieu me disait, tu veux me connaître, aime. Tu veux sonder la puissance de l'amour que j'ai pour vous, ben aime. Saint Augustin dira, cette phrase qu'on connaît, « Aime et fais ce que tu veux, si tu te tais, tais-toi par amour, si tu corriges, corrige par amour, si tu pardonnes, pardonne par amour, mais aie au fond du cœur, l'amour, de là ne peut sortir que de bonnes choses. » Fin de la citation. Mmh. Eh bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire, cette religion d'amour, c'est pas un amour un peu béat, tranquille, les doigts de pied au soleil sur la plage, hein, c'est pas ça. C'est cette capacité à s'oublier soi-même pour nous déporter vers l'autre. Dieu veut qu'on l'aime comme ça, et pas autrement. Mmh. Et ce qui est incroyable, c'est que les Juifs, en mettant ce poème dans le corpus des Écritures, décident que son peuple doit être comme la Sulamite. Son peuple doit chercher son Dieu comme une femme cherche son amant. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Aucun peuple, aucune religion ne l'avait fait. C'est une manière de dire, ben nous, parce que la notion de peuple est très importante évidemment chez les Juifs, ben notre peuple, il entrera en relation avec Dieu comme la Sulamite cherche et entre en relation avec son bien-aimé.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui pour notre communauté? Qu'est-ce qu'elle peut saisir ici dans ce texte? Il y a l'homme, la femme, il y a aussi le cœur. Mais comment est-ce que peut se vivre l'amour? Comment est-ce que ça peut se vivre et ça peut se traduire pour notre communauté aujourd'hui? Et peut-être même pour notre société?
Ben, ce qui est difficile, c'est que on a souvent l'impression, quand on aime quelqu'un, on a un sentiment de toute puissance. Et donc de possession, pour ne pas dire de domination. C'est sans doute très naturel au départ. Mais ce qui est important, c'est ce texte nous apprend à nous laisser traverser par cette puissance d'amour. Et non pas à être à l'origine même de l'amour que je donne. L'amour, il vient de plus loin que moi, comme la vie vient de plus loin que moi. Prenez l'exemple d'un vitrail. C'est au départ du verre et du plomb. Et du plomb et du verre et rien d'autre. Il faut qu'il y ait une lumière qui n'est pas la création du maître verrier pour que le vitrail devienne vitrail. Ben c'est pareil, à un moment donné, cet amour que je reçois, cette vie que j'ai reçue et que je transmets, ça me traverse et qu'est-ce que je laisse transparaître de cette traversée? C'est tout l'enjeu. Et donc, effectivement, ben, des couples, là, leur montrer qu'il faut sans doute beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, beaucoup de silence, de retrait. Alors qu'on a l'impression que quand on est amoureux, on crie, on chante, on dort plus. Enfin voilà, oui, forcément, et c'est en plus très marrant à voir. Et moi, quand je reçois les couples, et je les vois s'aimer, je vois qu'ils sont dans cette phase-là magnifique et heureusement qu'elle existe. Mais petit à petit, leur dire, mais cet amour-là maintenant, il va prendre racine en vous. Et une graine, quand on la met dans la terre, elle ne sort pas tout de suite. Il faudra du temps, il faudra arroser la terre pour que les fruits de cet amour surgissent. Ça, je trouve que c'est ce que le cantique me fait comprendre. Il faut du temps, il faut aussi éprouver l'absence de l'autre, ne pas avoir peur du manque, parce que c'est ce manque, ce bourrien, comme je l'avais déjà dit, qui me fait désirer l'autre. Et c'est comme ça qu'on entre dans les eaux profondes de soi. Et à ce moment-là, nos gestes, nos paroles, nos regards, enfin tous nos sens, peuvent, avec trois fois rien, changer un monde. Il y a le Patrice de la Tour du Pin, le grand poète qu'on connaît, qui écrit beaucoup d'hymnes de liturgie, disait « Parce que d'un baiser, tu changes tout un monde ». Je pense que ce baiser-là, c'est pas le baiser frénétique de « je te veux, je te prends dans mes bras ». C'est pas ça. C'est quand, à un moment donné, je donne un baiser à quelqu'un, un baiser plein d'amour. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est à la suite de toute une recherche que maintenant, je t'exprime cette chose qui est passé finalement qui est passé, je veux pas dire la moulinette, c'est pas très beau, mais enfin au prisme finalement de ma recherche et de l'acceptation de qui je suis quand j'aime.
Parce que au-delà du couple, il y a aussi comment on fait de la place pour tous ceux qui nous entourent, comment est-ce qu'on devient aussi au service des autres. C'est suffisamment présent dans les autres textes. Dans celui-ci, je ne sais pas, est-ce que vous y voyez la trace d'un quelconque service ?
Ce que vous dites là, c'est plutôt la solidarité, l'empathie, la compassion, l'amitié aussi. Là, on a, je pense, vraiment l'amour vraiment charnel, c'est-à-dire l'amour puissant qui est force de vie et qui donnera la vie. Je pense que c'est quand même cela qui domine à la première lecture. Mais je vais retenir ce que vous me dites là, parce que sans doute que quand je vais rentrer, je vais le relire de toute façon ce cantique, et on n'en finit pas de lire la Bible, ouais. Et on n'en finit pas de nous laisser traverser par elle.
Et puis alors, vous parliez de liturgie tout à l'heure, ce texte, il a une place dans la liturgie juive de la Pâque ?
On le lit au moment du Shabbat, on lit des extraits du cantique des cantiques, parce que justement, c'est une manière de dire, le Shabbat, c'est un moment de pause amoureuse. On va maintenant aimer notre Dieu qui ne cesse de nous aimer, alors que nous sommes nous-mêmes infidèles. Et donc on relit ce passage pour réactiver justement cette puissance d'amour que Dieu veut que nous ayons pour lui. Dieu veut qu'on l'aime. Mais on l'aime comment ? À travers les termes ici utilisés.
Et donc il fait partie véritablement de la liturgie. On peut que inviter nos auditeurs à relire ce livre, le Cantique des Cantiques. C'est pas si long en fait, c'est 8 chapitres. Et ça se lit bien, puis ça change, c'est véritablement une poésie, je crois qu'on peut le redire.
Alors, et comme toute poésie, c'est peut-être court, mais il faut prendre beaucoup de temps pour la savourer. Il ne faut pas lire d'emblée les 8 chapitres. Prenez quelques versets, avancez dans ce texte. La poésie, elle déploie sa puissance de pensée au gré du temps qu'on lui accorde. Je dirais pareil de la parole de Dieu d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas du temps à la poésie pour être poème, elle ne sera pas poème. Ce seront des mots qui se suivent. Oui. Il faut prendre le temps de savourer, de goûter ces termes qui parfois sont incompréhensibles. Il y a aussi un univers symbolique qui ne nous parle plus forcément, mais c'est pas grave. On entend quand même des belles choses. On voit des mots ensemble. Quand on parle de gazelle, de faon, quand on parle de aîné, quand on parle de lys dans la vallée d'ailleurs, ce sont des termes qui sont très jouissifs, qui sont très beaux, même si d'emblée, le aîné, je n'ai pas une culture particulière ici. Mais quoi qu'il arrive, je ressens les parfums. Donc il faut du temps. Donc il ne faut pas le lire vite, effectivement, le Cantique des Cantiques. Et il faut le savourer comme toute bonne chose.
Allez, on se laisse transporter, on plonge dans le Cantique des Cantiques. Un immense merci, Sylvain Gasser. Je rappelle que vous êtes frère assomptionniste, éditeur de podcast à la revue Prions en Église, et notamment le podcast La Bible à l'oreille, pour lequel vous avez justement travaillé le Cantique des Cantiques. Merci beaucoup.
Merci,
et bonne
Madeleine.
Lecture à tous.
Et oui, lisez et savourez le Cantique.